Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition matinale du 4 novembre 2014. En direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique ici à Washington. Avec vous, Camille Grosdidier, en compagnie d'Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, l'armée du Burkina Faso d'accord pour restituer le pouvoir aux civils, mais toujours vague sur la marche à suivre.
Le flottement actuel est un flottement qui n'est bon pour personne, ni pour la sécurité et le développement du pays. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas besoin de mettre une pression particulière. Je crois qu'il faut organiser et avoir un calendrier pour avancer.
On entendra Roche Marc Christian Caboret, président du mouvement du peuple pour le progrès.
Mise en garde de Ban Ki-moon contre les restrictions supplémentaires inutiles imposées aux travailleurs de la santé qui rentrent dans leur pays après avoir traité des malades de l'Ebola.
Élection de mi-mandat aux États-Unis, les deux dernières années au pouvoir du président Barack Obama pourraient être affectées.
La plupart des analystes prédisent que les républicains élargiront leur majorité à la Chambre des représentants et ont une excellente chance de reprendre le Sénat.
D'autres détails avec Lionel Gaïma.
Et en fin d'émission, une page sport et la musique avec Roger Muntou. Tout d'abord, le journal.
L'Union africaine a donné lundi 2 semaines à l'armée du Burkina Faso pour rendre le pouvoir aux civils. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a dit qu'il n'imposerait pas de sanctions sur le Burkina pour le moment, mais que le pouvoir doit être restitué aux civils. Vendredi, l'armée a placé à la tête de l'autorité de transition le lieutenant-colonel Isaac Zida pour remplacer l'ex-président Blaise Compaoré. Ce dernier a démissionné après 27 ans au pouvoir suite à de violentes manifestations.
Le lieutenant-colonel Zida, qui avait reçu dimanche des dirigeants religieux, a conféré lundi avec des diplomates. Selon les agences de presse, il aurait déclaré que l'armée cédera le pouvoir à une entité de transition dirigée par une personnalité choisie de manière consensuelle. Mais il n'a pas fixé de calendrier pour la transition. Ouagadougou était calme lundi, au lendemain de violentes manifestations.
Toujours concernant le Burkina Faso, Washington a réitéré son appel à une transition dirigée par des civils. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Dans une déclaration hier, la porte-parole du département d'État, James Saki, a dit que les États-Unis continuent de demander que la transition au Burkina Faso soit conforme à la Constitution et qu'elle s'achemine rapidement vers des élections présidentielles libres et transparentes. Estimant que la situation sur le terrain reste très fluide, Mme Saki a affirmé que le départ du président Compaoré et de membres clés du gouvernement, y compris des membres de l'Assemblée nationale, a créé un vide à la tête du pays.
En ce moment, la composition précise du gouvernement intérimaire burkinabé est une question en suspens. Nous encourageons certainement un mouvement vers une transition dirigée par des civils et, bien entendu, des élections.
Les États-Unis sont encore en train de rassembler les faits sur les événements du Burkina Faso et ne vont pas pour le moment se prononcer sur le plan légal ou politique en rapport avec cette situation, a souligné la porte-parole du département d'État hier.
Le secrétaire général des Nations Unies a mis en garde lundi contre les restrictions supplémentaires inutiles imposées aux travailleurs de la santé qui rentrent dans leur pays après avoir traité les patients atteints de la fièvre hémorragique à virus Ebola. À une conférence de l'ONU à Vienne lundi, Ban Ki-moon a fait référence à une mise en quarantaine des travailleurs de la santé qui n'est pas fondée sur la science et les preuves médicales et revient en fait à une mesure discriminatoire à leur égard.
Ce sont des gens exceptionnels qui donnent d'eux-mêmes pour venir en aide à l'humanité au péril de leur propre vie, a rappelé M. Ban. La meilleure façon d'arrêter ce virus est d'arrêter le virus à sa source plutôt que de limiter ou de restreindre la circulation des personnes ou le commerce, a-t-il poursuivi.
Selon l'agence France-Presse, plusieurs centaines de magistrats en République démocratique du Congo ont entamé lundi une grève illimitée pour demander une hausse de salaire promise en 2011 par le président Joseph Kabila. Claire Morin-Gibourg.
Les magistrats congolais sont en grève illimitée sur toute l'étendue du territoire. Ils réclament des hausses de salaire promises par Joseph Kabila, le chef de l'État, en 2011. Chabani Ouattenda, magistrat à Kinshasa, a déclaré à l'AFP que les jeunes magistrats ne touchent que 600 dollars par mois, alors que le président Kabila avait évoqué un salaire de 1 600 dollars lors de sa campagne pour les élections présidentielles de novembre 2011. Mi-septembre, le CINAMAC, le syndicat des magistrats du Congo, qui revendique la moitié des quelque 3 500 magistrats du pays, avait lancé une grève illimitée pour obtenir les 1 600 dollars. Le mouvement avait finalement été suspendu une dizaine de jours plus tard, alors que le gouvernement avait promis des augmentations. Cette nouvelle grève a, elle, été déclenchée par les tout jeunes magistrats, sans l'aval de la CINAMAC.
En Namibie, la Cour suprême a confirmé hier un jugement condamnant des agents de santé pour avoir stérilisé des femmes atteintes du virus du sida sans leur consentement. Jacques Aristide.
L'affaire concerne trois mères atteintes du VIH contraintes à signer des formulaires de consentement de stérilisation par des agents de santé. Elles n'avaient pas compris le contenu des documents qui leur avaient été présentés en plein accouchement d'après le Southern Africa Litigation Center. Pour cette ONG, le verdict de la Cour suprême namibienne envoie un message fort au gouvernement appelé à mettre un terme aux stérilisations forcées des femmes séropositives. Et d'ajouter que la décision a des conséquences non seulement pour les femmes atteintes de la maladie en Namibie, mais aussi pour beaucoup d'autres dans la même situation sur le continent africain. La stérilisation est un moyen radical pour traiter les femmes séropositives, la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant pouvant être évitée avec la prise de médicaments. La Cour suprême devra maintenant évaluer le montant total des dommages et intérêts à être versés aux trois femmes, toutes victimes de cette pratique illégale dans des hôpitaux publics. Des ONG ont demandé au gouvernement namibien d'ouvrir une enquête approfondie, car d'après ces organisations, de nombreux autres cas doivent être mis au jour.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un jeune Américain de 19 ans, Mohamed Hamza Khan, a été inculpé à Chicago d'avoir tenté de quitter les États-Unis pour rejoindre les combattants du groupe État islamique en Syrie. Il avait été arrêté début octobre à l'aéroport international O'Hare de Chicago. Lors d'une audience préliminaire lundi, les procureurs fédéraux ont déclaré que son jeune frère et sa sœur ont également été arrêtés le 4 octobre alors qu'ils tentaient de partir pour Istanbul en Turquie.
Hamza Khan a été inculpé lundi d'avoir projeté de fournir un soutien matériel à un groupe terroriste étranger. Son jeune frère, 16 ans, et sa sœur de 17 ans n'ont pas été inculpés, mais le procureur Richard Hiller a dit qu'ils sont également des partisans ardents de l'État islamique. Fournir un soutien matériel à une organisation terroriste étrangère est un crime passible d'une peine allant jusqu'à 15 ans de réclusion et d'une amende de 250 000 dollars.
En dépit de l'attentat sanglant à Wagga dimanche le long de la frontière entre le Pakistan et l'Inde, la cérémonie militaire au poste frontière a eu lieu ce lundi comme d'habitude. Des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants y ont assisté. L'attentat kamikaze a fait au moins 55 morts et une centaine de blessés.
13 ans après la destruction des tours jumelles du World Trade Center à New York, le gratte-ciel le plus haut des États-Unis, baptisé One World Trade Center, a ouvert ses portes hier. Symbole de renaissance et de résilience face au terrorisme, cet édifice mesure 541 mètres de haut. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
La phase finale du projet est en cours, mais déjà son premier occupant, la maison d'édition Condé Nast, a pris possession de son secteur. En fait, il s'agira de 24 étages où travailleront 2300 employés. Ceux qui ont pris fonction dans ce bâtiment lundi étaient généralement enthousiastes et semblaient ne pas se faire du souci pour leur sécurité. Austin Parker est un employé de Condé Nast. Il est satisfait de l'environnement sécuritaire. Pour sa collègue Marianne Casey, l'événement du 2 novembre 2014 revêt un sens particulier. Ce qui s'est passé en 2001, c'est une tragédie. Mais je pense, dit-elle, que l'érection de cet édifice est un grand hommage à l'Amérique. Je suis fier de travailler ici. One World Trade Center, c'est un projet à la mémoire des victimes du 11 septembre 2001, a déclaré Steve Plate, directeur de la construction. L'édifice mesure 541 mètres de haut et occupe une superficie de 279 000 m². Il est déjà loué à 60% par des maisons d'édition, des centres technologiques et des entreprises de communication.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, vous suivez Le Monde aujourd'hui sur la VOA avec Camille Gros-Didier. Il est 5h40, temps universel. Le Burkina Faso est toujours en attente d'un organe de transition dirigé par un civil. La junte militaire n'y opposant plus de résistance. Mais les choses vont à pas de caméléon, signale notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Les acteurs de la scène sociopolitique burkinabé et la junte militaire semblent se hâter très lentement dans la mise en place de l'organe de transition. La confiance règne-t-elle entre eux? Écoutons ce qu'en dit Roch-Marc Christian Kabore, le président du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès.
Le flottement actuel est un flottement qui n'est bon pour personne ni pour la sécurité et le développement du pays. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas besoin de mettre une pression particulière. Je crois qu'il faut organiser et avoir un calendrier pour avancer. La sincérité, ce sera au coût de la pratique que nous allons constater cela. À partir du moment où on ne peut pas mesurer la sincérité de quelqu'un, et c'est l'ensemble des dispositions. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'opposition, il y a la communauté internationale, il y a tous les pays qui aident le Burkina Faso qui aujourd'hui sont dans la danse pour demander que la transition soit civile et démocratique, pour demander à ce que la constitution soit remise en selle.
Pour le démarrage de la machine de l'organe de transition, il est primordial de lever d'abord la suspension de la constitution. C'est ce que le lieutenant-colonel Yacouba Zida entend faire, nous a dit Ablasse Ouédraogo, président du Faso Autrement.
Au cours de notre rencontre avec le colonel Zida, celui-ci nous a indiqué clairement qu'il allait procéder à la levée de la suspension de la Constitution. Et cela ouvre la possibilité donc de ramener le Burkina à une situation de légalité constitutionnelle. Ceci étant dit, tout ce qu'on nous a expliqué comme procédure, vous le savez, le Conseil constitutionnel qui s'auto-saisit de la question, qui fait le constat que le chef de l'État n'est pas là. On va à l'Assemblée nationale, on fait le constat que le président de l'Assemblée nationale est en incapacité de travailler et il demande aux forces vives de proposer une personnalité pour diriger la transition. Pour nous, cette personnalité-là, des forces vives-là, c'est un civil.
L'opposition, par la voix de son chef, Zéphirin Diabré, a décidé de jouer balle à terre pour ne pas contrarier le processus de concertation. On écoute Zéphirin Diabré.
Nous avons décidé de suspendre pour le moment l'activité de meeting et de rassemblement. Vous convenez vraiment avec moi que cela ne sied pas. Lorsqu'il y a des concertations qui sont engagées, que l'on commence à manifester dans la rue, il n'y a pas de raison à ce stade-là pour le faire. Je vais compléter en rappelant des phrases que nous avons prononcées lors de certains de nos meetings, mais qui ont été prises un peu, peut-être pas avec une grande considération par notamment vous autres journalistes. Nous avons expliqué que l'alternance au Burkina Faso n'entraînera pas de chaos ni de guerre civile. C'est vrai, on a eu des journées mouvementées, mais vous voyez que les choses sont en train d'aller rapidement, en place et en bonne place.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
Ici Washington, pour avoir une idée sur le déroulement de la mise en place du processus de transition au Burkina Faso, Nathalie Barche a joint à Ouagadougou notre confrère Newton Ahmed Barry.
Ce qui est à l'œuvre, en plus des tractations, ce sont les commissions qui travaillent pour rédiger ce qu'on pourrait appeler la charte de la transition, dans laquelle on va opérationnaliser la mise en place des institutions et définir les critères pour choisir les personnes ressources qui vont diriger la transition, aussi bien au niveau de l'exécutif, donc le président de la transition, que les présidents des autres structures des instances, comme notamment l'instance législative. On va laisser ça au choix des partis politiques, mais les critères seront tels que, évidemment, tout Burkinabé qui remplit les critères pourrait se présenter. Et maintenant, il y aurait un collège électoral qui a déjà été plus ou moins arrêté, qui va évidemment se charger, devant le Conseil constitutionnel, de faire le vote. Mmh. Donc, le colonel Zida pourrait rester jusqu'à l'aboutissement du processus qui est en train de se mettre en place. On va notamment saisir le Conseil constitutionnel sur la vacance, qui va constater la vacance et l'impossibilité de mettre en branle l'article 43 de la Constitution qui dit qu'en l'absence du chef de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient de fait le président de l'État. L'Assemblée ayant été dissoute, il est donc impossible de mettre en œuvre l'article 43. Donc le Conseil constitutionnel devrait pouvoir acter opter pour une charte de transition sur laquelle il y aurait un consensus.
Est-ce que le processus va être un peu similaire à celui de la Centrafrique, notamment au niveau des étapes?
Un peu comme en Centrafrique, mais pas tout à fait. Parce que la Centrafrique, ils ont d'abord mis en place l'organe législatif. C'est l'organe législatif qui a donc choisi le président de la transition. Sauf que ce qui est pour l'instant proposé comme mouture par la société civile et qui donc demande à être acté, c'est qu'on puisse mettre en place une commission qui n'est pas forcément la commission législative, là, indépendante, avec des critères très bien précis pour désigner le chef de l'État et ensuite, après, opérationnaliser les autres éléments qui sont relativement indépendants.
Et est-ce que, selon vous, l'armée va se plier, disons, au choix de la société civile d'une manière générale, y compris l'opposition ?
Dans les propositions, naturellement, des personnes ressources ou du collège qui va désigner le président de la transition, dans les moutures qui circulent actuellement, l'armée a des représentants. Ça veut dire qu'elle va participer aussi à l'élection du président, même si elle-même, en tant qu'entité, ne peut pas présenter de candidat. Est-ce qu'elles vont accepter ? Est-ce que... Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Actuellement, la pression est tellement forte sur l'armée, aussi bien en interne qu'au niveau international, que je ne vois pas comment ils pourraient s'entêter.
Est-ce qu'il n'y a pas tout de même le risque de converger un petit peu vers un scénario à la Sisi en Égypte ?
Sisi avait fait un coup d'État carrément, après évidemment le soulèvement populaire, et il avait à la limite participé à la désignation d'un président qui lui était totalement acquis et dans lequel lui-même il jouait un rôle extrêmement important. Je ne crois pas, dans l'architecture qui se dessine, l'armée n'aura pas un rôle aussi prépondérant qu'en Égypte, au point qu'un des représentants qui y serait puisse avoir la possibilité de détourner ou de s'approprier en cours la question définitive.
Newton Ahmed Bari, rédacteur en chef et cofondateur du journal L'Événement à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Le mouvement Martin Luther King, une association togolaise de défense des droits humains, appelle le président ivoirien Alassane Ouattara à livrer l'ancien président burkinabé à la justice afin qu'il réponde de ses crimes. Depuis sa chute, Blaise Compaoré a trouvé refuge à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. Idriss Fall a joint à Lomé Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King.
C'est un sentiment de joie, mais à la fois de regret, parce que ça fait presque 27 ans qu'il est au pouvoir. Il aurait pu partir par la grande porte que par la petite porte. Mais comme il voulait s'éterniser au pouvoir, les Burkinabés n'ont plus voulu de lui. Et le peuple souverain burkinabé a parlé, ce qui doit être une leçon pour les chefs d'État qui veulent s'éterniser encore au pouvoir, en passant le temps à répatrier les lois fondamentales des pays africains.
Apparemment, votre association demande qu'il soit rendu à la justice.
Oui, justement, il est venu au pouvoir par le sang, en assassinant son camarade d'armes Thomas Sankara, et en éliminant tous les opposants de l'époque. Aussi, on se souvient de la disparition tragique de l'assassinat du journaliste de l'Observateur, Norbert Zongo, dont les conditions sont jusqu'ici non élucidées. Je crois qu'avec tous ces crimes, il ne peut pas rester impuni et notre mouvement demande qu'il soit extradé vers des juridictions compétentes pour que lui et son frère et ses hommes de main puissent répondre de leurs crimes devant les tribunaux.
Et vous savez que quand même Alassane Ouattara qui l'accueille doit beaucoup à Blaise Compaoré. Est-ce que vous croyez qu'il va le livrer comme ça?
Ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question de loi et de justice, quelles que soient les relations qui les unissent. Aujourd'hui, il est question de la loi, il est question de la justice. Nous allons nous constituer en un réseau d'associations pour demander son extradition et qu'il comparaisse et que cela serve de leçon aux autres dirigeants africains qui pensent qu'ils vont rester éternellement impunis en massacrant les peuples africains. Donc nous, c'est le début d'un long feuilleton, mais je crois que la justice finira par triompher.
Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King à Lomé.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Camille Grodidier avec vous pour Le Monde aujourd'hui. Il est 5h50, temps universel. Les Américains se rendent aux urnes ce mardi pour renouveler tous les 435 sièges de la Chambre des représentants et 36 de ceux du Sénat. 36 des 50 postes de gouverneur d'État sont également en jeu. Pour le président Barack Obama, ces deux dernières années à la Maison-Blanche pourraient être affectées par le score des républicains dans les deux chambres du Congrès. Lionel Gaïma.
La plupart des analystes prédisent que les républicains élargiront leur majorité à la Chambre des représentants et ont une excellente chance de reprendre le Sénat. Ils leur font un gain net de 6 sièges à la Chambre haute que contrôlent actuellement les démocrates. Il y a une certaine morosité à travers le pays et des sérieux soucis sécuritaires ici et à l'étranger. Selon les sondages, les électeurs ne sont pas contents du président et de la direction qu'emprunte le pays. Frank Newport de l'Institut de sondage Gallup. Je dirais qu'à la base de toute autre chose qui pourrait préoccuper les Américains cette année, il y a surtout l'économie et les emplois disponibles. Pour le président Obama, qui a encore 2 ans à passer à la Maison-Blanche, l'enjeu de ces élections de mi-mandat est de taille. Il a exhorté les démocrates à ignorer les oiseaux de mauvais augure et d'aller voter. Le cynisme n'a amené personne sous la lune. Le cynisme n'a jamais mis fin à une guerre. Il n'a jamais guéri une maladie. Il n'a jamais fait prospérer une entreprise. Il n'a jamais nourri un jeune cerveau. Le cynisme est un choix, mais l'espoir est un meilleur choix encore, s'est écrié M. Obama. Mais l'histoire n'est pas de son côté. Le deuxième mandat d'un président est souvent marqué par des pertes de sièges au Congrès par son parti. Et dans le cas de M. Obama, sa cote de popularité est faible, ce qui n'aide pas beaucoup les candidats démocrates à travers le pays. Des républicains comme Mike Duncan, un ancien président du comité national de son parti, font tout de même preuve d'un optimisme prudent quant à une reconquête du Sénat. Mais ces élections, particulièrement au Sénat, sont très locales et nous avons cette fois-ci des bons candidats. Je pense que nous avons effectivement le vent en poupe, mais ce n'est pas terminé. M. Duncan n'est donc pas prêt à vendre la peau de l'ours. Selon lui, les républicains font cependant de leur mieux pour faire de ces élections un référendum national sur le président Obama et ses politiques. Eh bien, je crois que le gros titre, c'est que le pays tourne le dos au président Obama. Nous ramenons le pays au centre droit, là où le veut le peuple américain. Les élections de mi-mandat portent d'habitude sur les questions de politique intérieure. Mais cette année, la montée du groupe islamique au Moyen-Orient et la crainte d'une propagation éventuelle de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest ont ébranlé la confiance du public américain. L'analyste Norman Ornstein de l'American Enterprise Institute. Vous avez des candidats indépendants et des candidats républicains qui ont de sérieuses lacunes. Le meilleur moyen de contourner la difficulté, c'est de donner un caractère national à l'élection à un moment où les gens sont mécontents et croient que les choses sont hors de contrôle, que leur gouvernement ne fonctionne pas bien et que leur président est incompétent. Quelle que soit l'issue des élections d'aujourd'hui, elles sont les plus chères de l'histoire des législatives américaines. Pas moins de 4 milliards de dollars ont été dépensés cette année, selon le Center for Responsive Politics.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum, ce jeudi plein feu sur les élections de mi-mandat aux États-Unis, sans oublier bien évidemment un suivi de la situation au Burkina Faso. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique, rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
On enchaîne avec les sports. Présentation Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Camille.
Alors, la CAF maintient les dates de la CAN 2015?
Oui, la Confédération africaine de football a refusé la demande de report du tournoi par le Maroc au pays organisateur en raison de l'épidémie d'Ebola. L'unanimité s'est faite sur le maintien de la compétition aux dates initialement convenues, à savoir du 17 janvier au 8 février 2015. C'est ce qu'a expliqué l'instance du football africain dans son communiqué. Cette dernière semaine, l'organisation a sondé d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Ghana et l'Algérie en leur demandant s'ils étaient prêts à reprendre l'organisation au pied levé.
Le champion 2014 du Togo est connu.
Oui, Semase de Sokodé, vainqueur 1-0 d'Agassa de Lomé, a remporté le titre de champion du Togo de football à l'issue de la 22e et dernière journée disputée dimanche et hier lundi. Semase, sacré pour la 10e fois record national, a totalisé 42 points contre 37 pour son suivant immédiat, le tenant du titre Ange FC de Nordsee. L'AS Douane de Lomé et Wiking T de Bassar sont relégués en deuxième division, remplacés par les promus Kotoko de Lavier, champion, et l'US Koroki de Tchamba.
Et puis Claude Makelele n'est plus entraîneur général du SC Bastia.
Oui, l'ancien international français d'origine congolaise a été démis de ses fonctions d'entraîneur général du Sporting Club de Bastia. Arrivé durant l'intersaison, l'ancien bras droit de Laurent Blanc paye les mauvais résultats de son équipe 19e du championnat avec 10 points. Makelele ne sera resté que 12 journées à la tête de l'équipe bastiaise. Claude Makelele est le premier entraîneur de Ligue 1 limogé cette saison.
Merci Bagassi. Et on passe à la page musicale avec Roger Muntus. Salut Roger.
Bonjour Camille. Produit sur fonds propres et enregistré au studio Jambox à Manhattan, à New York City, Tekré est un titre engagé chanté en plusieurs langues, hein, dont le moré, le bambara, le français et l'anglais. Le collectif de jeunes burkinabés dit s'être constitué en réponse à la crise sociopolitique que traverse actuellement leur pays natal, le Burkina Faso. Un membre de ce collectif, Baf Digues, nous en dit plus.
Tekré, en fait, c'est une langue morée, une langue burkinabète. Ça veut dire changement. Et nous sommes des jeunes burkinabés vivant ici aux États-Unis. Et nous nous sommes retrouvés, nous nous sommes mobilisés face à la crise sociopolitique qui traverse notre pays. Et en tant qu'artistes musiciens, nous avons essayé d'apporter aussi notre voix à toutes ces voix-là qui se lèvent pour demander beaucoup plus de démocratie au Burkina, de l'alternance en 2015, et aussi du respect pour nos textes constitutionnels. Surtout pour un pays comme le Burkina Faso, nous voulons beaucoup plus de démocratie. Nous demandons de l'alternance pour 2015. Nous demandons du respect pour nos textes constitutionnels.
Ni bolo korima bo, kushikan yashe komache. Burkina yaba, tintaman leni yaba, tudogo hambupo, tudogo lebre.
Gomane fo, foka wum gombi, sarla fot, foka wum sarla si. Tengkugla yelam te flore, tinimguida yelam te flore. Morne om ya flur tam lebre, demokrasi ka ten yi nedaye. Ton kanan tol sak nyawa ye, Burkin yali al ka Burkin ye, Burkin namba iki ya, ti masa ya la Tekré.
C'est créé. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Camille. Bonne journée à tous nos auditeurs de Ouagadougou.
Et vous retrouverez Roger Muntu dans le RM Show à 20h, temps universel.
UN c'est l'équipe et moi on m'appelle Kedri. Aujourd'hui je rêve mon bled avec le collectif Tekré. Unis pour le Faso, c'est terre on l'a dans la peau. Nous ici on sent les coups aussi tant que là-bas ça chauffe. Depuis de nombreuses années, toujours les mêmes injustices. Mes gars ont tellement grévé que le school n'a plus rien d'instructif. Comme on le peut on chante pour les frères qui veulent sa chance. La chance c'est qu'il suffit de s'unir pour que l'on avance.
Il est temps de partir, il est temps de montrer la vraie démocratie. Kato, Burkina Faso, Timasaya la Tekré. Il est temps, je t'en prie, il est temps,
so what we talking about? We talking about peace, we talking about freedom, what we talking about? We talking about change, we talking about, that's what we talking about, hey.
Fermé dans ta bulle d'illusion, le pouvoir t'obscurcit la vision, vent du changement souffle à fond, et toi, tu joues le bouffon, écoute bien la voix du vent qui souffle, ne tombe pas dans le gouffre. Change ton fusil d'épaule.
Parfois,
l'histoire s'écrit, nous on s'épaule.
Article 37, la sixième.
Voilà, c'était Le Monde aujourd'hui. Au micro, Camille Grosdidier et Anne Albertson. Une très bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.